Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. On est dans direct, on est dans l'émission Le Vestiaire. C'est votre humble serviteur Olivier et aujourd'hui dans le studio, encore une fois, je ne suis pas tout seul. J'ai un super invité qui nous a rejoint. Son prénom c'est Fred et je suis très content de l'avoir avec nous dans le studio. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est un coach, il va pouvoir nous parler plein de choses de ce qui se passe dans le vestiaire. Et deuxièmement, c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez et on n'a pas beaucoup parlé assez dans l'émission Choc FM et dans le vestiaire notamment. On va parler un petit peu boxe, UFC et puis sport en général. Fred, comment tu vas aujourd'hui?
Bah moi super, en tout cas je suis content d'être à l'émission avec vous. Donc non mais tout va très bien et j'ai hâte qu'on discute de tout ça.
Et top, top, top. Merci de nous rejoindre, c'est vraiment cool. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, Fred, je vais te donner, on va faire un peu comme un conseil de classe, je vais te donner la parole, puis je vais te laisser te présenter un petit peu, parler un petit peu de ton parcours, mais pour t'aider, je vais quand même te poser quelques questions, ça évitera de faire conseil de classe, comme je disais. Fred, tu viens d'où? C'est quoi ton histoire? Comment t'es arrivé à Toronto? Est-ce que ça fait longtemps que t'es ici?
Moi, ça va faire environ à peu près 7-8 ans. Je viens de France, de Paris. Donc, du coup, j'ai eu un ami qui a fait une demande de visa pour venir au Canada. Du coup, j'ai appliqué moi aussi pour ce fameux visa, pour avoir une nouvelle expérience, spécialement à Toronto, pour apprendre la langue, pour un peu pour découvrir un peu la partie anglophone, on va dire. Donc,
Excellent.
voilà.
Donc, tu as amélioré ton anglais, mais tu es quand même fier de ton français, j'imagine.
Oui, bien sûr, bien sûr. Ça fait un petit
Ok,
moment,
top.
on peut que pratiquer, hein. Donc.
Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Alors, toi, tu es arrivé, est-ce que ton objectif quand tu es arrivé il y a 7 ans, c'est d'arriver à être on va dire, dans le secteur d'activité dans lequel tu étais? Est-ce que tu étais en France? Est-ce que tu étais aussi dans la boxe et dans le coaching?
Non, pas du tout. Enfin, bon. En fait, moi, je travaillais en banque, donc
Ok,
rien à voir. Mais à
rien
côté,
à
j'ai
voir.
rien à voir du tout, mais en fait j'ai toujours pratiqué les arts martiaux depuis que je suis enfant. Avec mes parents, nous ont inscrits au karaté, donc j'y allais avec ma mère, mon père, mes frères et sœurs. C'est surtout pour l'éducation, les valeurs, tous les principes des arts martiaux. Et donc du coup j'ai commencé par le karaté, j'en ai fait en compétition, j'en ai fait 5-6 ans. Ensuite j'étais plutôt pas mal au foot, donc j'ai voulu que mes parents m'inscrivent au foot. Donc j'ai fait après 2 ans de club, j'ai signé un contrat professionnel en centre de formation à Guingamp. Donc j'ai eu un contrat de 1 an et ensuite je suis retourné chez mes parents parce qu'en fait l'expérience était une bonne expérience, mais je pense que j'étais pas assez mature à ce niveau-là. Et quand je suis retourné chez mes parents, mon frère a obtenu sa ceinture noire de karaté et il s'est inscrit au Sanda, c'est un art martial chinois. C'est comme du kickboxing, on va dire. Donc du coup,
Ok.
quand je suis revenu chez mes parents, je me suis inscrit aussi au Sanda et à côté, je joue au foot. Donc
Foot pour le plaisir et arts martiaux de l'autre côté.
exactement. Donc je faisais les deux en même temps, mais tout en faisant de la compétition dans les deux sports.
Tout en ouvrant des comptes bancaires.
Exactement. Exactement. Et du coup,
Ok.
et ensuite pour, on a vu que avec mon frère qu'on devait s'améliorer parce que le problème avec le pied-point, c'est souvent les personnes sont pas très bons en anglaise, donc en boxing. Donc du coup, j'ai commencé à prendre aussi des cours à côté de boxe, et c'est là où tout a commencé, on va dire.
Ok, excellent. Alors, t'as parlé plein de choses et il va falloir que je revienne sur certaines étapes. Déjà, premièrement, tu parles à quelqu'un qui est un passionné de football. Et les gens sur la radio, ils le savent. Je suis un énorme passionné de football ou de soccer, comme on l'appelle ici. Donc, t'es passé pro football à quel âge?
J'avais
Et
quoi?
à quel âge Guingamp est venu te chercher?
14 ans?
14 ans. 14 ans et je parle vraiment avec le beaucoup beaucoup de d'humilité parce que je ne connais pas le fait de passer pro, j'ai jamais eu cette opportunité, j'ai jamais eu cette chance même si j'ai joué à un haut niveau, j'ai jamais passé le cap. À 14 ans, le club de Guingamp vient de chercher pour dire ce jeune-là, on le veut chez nous dans notre école ou dans l'équipe de jeunes et là ça discute avec les parents et toi tu décides de faire le saut et t'y vas. C'est comme ça que ça se passe ou raconte-nous un petit peu cette histoire.
Bon, en fait, il y avait des détections. Déjà, moi, en fait, de base, bon, c'est vrai que j'étais en région parisienne, mais de base, en fait, moi, je viens de Limoges, c'est
OK.
dans le centre de France. Et en fait, je jouais dans un petit club. Et souvent, dans ces petits clubs, dans les départements, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils créaient une équipe où il y a les meilleurs joueurs. Et en fait, on jouait contre d'autres départements. Et donc, du coup, pendant ces matchs-là, en fait, il y avait des recruteurs de centres de formation professionnels qui venaient, regarder les matchs et ensuite qui contactaient nos entraîneurs et ensuite nos parents. Donc moi j'étais sélectionné pendant ces 2 ans-là quand j'ai commencé le foot. En fait j'ai toujours fait du foot mais plutôt au quartier ou à l'école en fait. J'ai toujours été passionné de foot et j'avais pas mal de facilité. Et ensuite c'est pour ça que j'ai eu cette proposition de centre de formation à Guingamp. J'ai signé mon premier contrat. Ça a duré 1 an. Ça a été dur mentalement en fait de quitter les parents à cet âge-là en fait. Donc c'est ça le plus dur. On nous demande à un jeune âge d'être dans une académie professionnelle, donc vraiment de se comporter comme des pros quoi. Donc on
s'entraîne. Ça doit pas être facile.
Ouais non c'est pas facile. C'est pour ça que toutes les personnes quand qui critiquent un peu les sportifs de haut niveau, spécialement les footballeurs. Je suis pas d'accord pour avoir vécu l'expérience. C'est un parcours très difficile. Il faut être fort mentalement, surtout. Parce qu'il n'y a pas que de la technique ou que du talent. Le talent, c'est une chose, mais sans travail, ça paye pas.
Ouais, alors c'est important ce que tu dis parce que, en fait, donc t'es un jeune âge, en fait. T'es dans ton adolescence, t'as 14 ans. Tu connais pas vraiment la vie, mais on te dit, OK, on t'a repéré. Alors, ça doit être déjà pour d'un point de vue personnel, ça doit être super génial parce que tu as l'impression d'être une superstar. Et puis à l'époque quand même en avant Guingamp, c'est quand même un club relativement intéressant pour le développement d'un jeune professionnel que tu aurais pu devenir. Et tu quittes donc parents, amis, finalement le cocon familial, même le cocon de tous tes amis à toi pour vivre ailleurs dans une complète autre dimension qui est la professionnalisation de ton futur ou potentiel futur job en réalité.
Exactement.
C'est ça? Wow.
C'est exactement ça. Et en plus, voilà, je suis arrivé en Bretagne. On était avec plein de jeunes. La plupart on est tous de d'autres villes en fait. Il n'y avait pas beaucoup de, j'ai pas joué avec beaucoup de Bretons. C'est ça le plus rigolo. Parce qu'il y avait pas mal de personnes de la région parisienne et quelques personnes de province. Donc oui, c'était, on avait beaucoup de chance. Sur toute l'équipe une de Guingamp à l'époque. J'ai vu les joueurs comme Guivard, j'ai vu à l'époque il y avait Malouda aussi.
OK.
À l'époque il y avait Malouda et il y avait Drogba aussi.
Alors pour voilà, oh attention là, tu viens de lâcher le gros nom et un nom un peu moyen mais pour ceux qui connaissent pas. Donc Florent Malouda, international footballeur français qui a joué dans beaucoup d'équipes en Europe, notamment à Chelsea également. Et puis tu parles de Didier Drogba, le GOAT du football ivoirien. C'est bien tous ces noms-là que tu viens de lâcher, j'imagine.
Et c'est exactement ça. Donc nous, pour nous, on était fous, les petits jeunes en centre de formation, parce qu'on, du coup, on y allait gratuitement pour les matchs. On avait les abonnements gratuits vu qu'on faisait partie du centre de formation. Et du coup, de voir ces joueurs stars en plus de l'époque, c'était dingue pour nous. C'était dingue pour nous, surtout après ce qu'ils sont devenus. Hein. Après, je crois que après Guingamp, il y a Drogba qui a signé à Marseille, et après Marseille, les grands clubs, Chelsea. Donc ouais, non, c'est incroyable.
Je pouvais pas dire le nom que tu viens de dire. Cette ville pour moi, non, je rigole. Marseille, c'est une belle ville, c'est un bon club de football, évidemment. Ok, waouh. Et donc, alors, on passe ensuite à l'étape à arts martiaux et autres. Et donc, c'est aujourd'hui, t'en as fait ton métier, pas vraiment arts martiaux en tant que tel, mais dans le sport de combat, t'en as fait ton métier. T'as décidé d'arrêter la banque et d'en faire ton métier, c'est ça?
En fait, j'ai eu des opportunités. J'ai travaillé dans une salle dans une salle ici à Toronto où en fait je gérais les finances. Donc j'étais dans le même secteur d'activité. Et ensuite, on m'a proposé de coacher, on va dire une heure par semaine. Et ensuite, ça s'est très très bien passé. J'ai eu plusieurs heures. Ensuite, j'étais avec mon coach qui est cubain, qui coachait dans cette salle-là. Et il y avait des fighters, donc du coup j'ai commencé par faire un ou deux sparring avec des fighters du club. Et ensuite il m'a proposé le coach si j'étais ok de faire un tournoi donc qui s'appelle le Silver Gloves. Et au bout de 2 mois j'ai fait ce tournoi, j'ai gagné les Silver Gloves. Ensuite j'ai participé au Golden Glove que j'ai gagné aussi. Et ensuite on a continué comme ça en fait. On a continué comme ça. Mais j'avais déjà un background en fait, j'avais déjà fait de la compétition, que ça soit au karaté, en boxe anglaise, même au sanda, qui est du kickboxing. Et donc du coup, j'avais déjà en fait ce rapport avec le coup qu'on peut avoir physique, qui est très dur quand c'est vraiment la toute première fois qu'on fait de la compétition. Donc,
ok, je comprends.
Dans tous les sports que j'ai fait plus jeune, j'ai toujours fait de la compétition. Donc c'est comme si ça fait partie de mon lifestyle, quoi.
Ouais, non, je comprends. Alors, il y a une petite tradition dans le vestiaire, c'est que je pose une question qui a un rapport avec le vestiaire, parce qu'on est dans l'émission qui s'appelle Le Vestiaire. Est-ce que tu as une ou plusieurs anecdotes qui te reviennent en mémoire de quand tu es dans un vestiaire, alors que ce soit jeune, soit au foot, soit dans les sports de combat, quelque chose qui t'a, une anecdote qui t'a fait soit sourire, soit un truc qui te revient à l'esprit là pendant qu'on se parle. Ou alors, du côté coach, est-ce que tu as aussi de l'autre côté, en étant coach et en voyant ce qui pouvait se passer dans un vestiaire, est-ce que tu as une anecdote de chaque côté que tu pourrais partager avec nos auditeurs?
Ouais, c'est une très bonne question. Je crois que c'était pour Golden Glove pour la finale. En fait, il y a un des coachs qui est venu me voir et qui m'a demandé si j'étais droitier ou gaucher. Moi, je
Ok.
n'avais pas compris que c'était le coach de la personne contre qui j'allais combattre. Et donc, du coup, je lui ai dit que j'étais droitier et gaucher. Et j'ai vu qu'il a bugué parce qu'en fait, il est en train d'essayer de connaître la stratégie que j'allais avoir si je suis droitier, en tant que droitier ou en tant que gaucher. Mais moi, vu que je viens du kickboxing, du sanda, du coup, nous, on switch, on change systématiquement de droitier à gaucher quand on envoie les kicks. Donc, du coup, j'ai toujours gardé cette habitude-là. Je boxe autant de la droite que de la gauche. Je peux même pas rester que droitier ou que gaucher. J'ai toujours l'habitude de switcher. Ce qui est pas commun pour un boxeur, en fait.
Ok, donc putain, c'est énorme. Donc le coach adverse vient te voir et il te demande en gros, t'es droitier ou gaucher parce qu'il veut lui ajuster sa stratégie. Ça se fait d'ailleurs ça dans la. Enfin, je suis choqué en fait, mais ça se fait généralement de se voir et de se parler avant le match avec l'équipe adverse en dire tiens, t'es droitier ou gaucher ou. Non, ça se fait pas, hein.
Non, pas vraiment, c'était la première fois et c'était surprenant pour moi parce que je m'étais pas rendu compte que c'était le coach
D'accord, waouh.
de la personne contre qui j'allais combattre. Donc du coup, c'était ça qui était le plus marrant et c'est ensuite que j'ai compris en fait. Et c'est encore plus rigolo parce que voilà, moi je boxe des deux côtés et je reste jamais juste droitier ou gaucher, je change systématiquement dans tout le combat. Donc du coup, j'étais un peu perdu par rapport
Ce
à
qui est
ma
drôle,
réponse.
c'est que il a dû se dire, mais il a, je voulais aller jouer dans sa tête et c'est lui finalement qui a joué dans la mienne, en me donnant, non, je suis ni droitier ni gaucher, mais je vais t'éclater quand même, en fait.
C'est un peu ça, on va dire ça comme ça.
C'est drôle. Ok, waouh. Et quand t'étais petit, est-ce que t'as une anecdote de vestiaire? Tu sais, on parle toujours de, ouais, tiens, lui, il était en retard et ça a été une dinguerie, ou d'abord, j'avais, je sais pas, je mettais d'abord mon gant droit, ensuite mon gant gauche, je suis un peu superstitieux, ou t'as un truc comme ça, ou pas vraiment?
Si, c'est vrai que quand moi je jouais au foot, j'avais toujours l'habitude de sortir le dernier du vestiaire et même avant de rentrer sur le terrain, je rentrais toujours le dernier. Et un jour en fait, il y avait un autre de mes collègues qui voulait ressortir en dernier. Et du coup, on a attendu comme des idiots pendant 1 minute jusqu'à que l'autre il craque qu'on rentre parce que du coup, les arbitres nous attendaient quoi. Mais oui,
Logique.
ça. Mais c'est à force de regarder. Moi, j'étais fan du joueur de foot Ronaldo, le Brésilien. Et il avait toujours sortir en dernier. Et vu que j'ai commencé le foot en regardant ses matchs et ses dribbles incroyables. Pas Ronaldo le portugais, mais le vrai Ronaldo, El Fenomeno le brésilien.
Le
Donc,
Brésilien numéro 9.
à cette époque-là, quoi. Je me rasais même la tête. Enfin,
Ah oui, carrément. Est-ce que tu as fait la même coupe avec juste
Ah non,
le
non.
petit morceau de cheveux sur le devant?
Je suis pas allé jusque-là.
C'est
Maintenant, je suis un
énorme.
grand supporter de l'équipe du Brésil. J'ai toujours supporté plus le Brésil que la France, justement. Mais
Ok.
c'est vraiment moi, l'équipe de l'époque avec Romario, Ronaldo, Bebeto, enfin, tous ces jours-là, pour moi, c'était des modèles, quoi.
Ouais, c'est quand même là les noms que tu viens de donner pour ceux qui connaissent un petit peu leur football ou qui alors sont d'une génération qui pourrait toucher la tienne et la mienne. C'est quand même des grosses légendes du football brésilien. Quand on parle des Ronaldo, Bebeto et Romario, Raí et compagnie, là on touche à de ce qui pourrait se faire de mieux ou ce qui s'est fait de mieux dans une époque.
Ouais, bah moi je considère encore aujourd'hui que Ronaldo, le Brésilien, c'est le meilleur. Hein. Il y a personne qui a ses facultés à dribbler, aller jusqu'au but et marquer. Hein.
C'est vrai?
On connaît pas pour moi, ouais, c'est le meilleur. Il
Et
est
alors,
très,
est-ce que t'as...
j'aimais
Vas-y, vas-y.
son jeu de quartier en fait. Son jeu, il sent les choses, il passe les gens de gauche à droite, il faisait des gestes incroyables. Enfin, c'était de la folie. Il y a qui m'a rappelé Ronaldo, c'était aussi Ronaldinho, mais c'était différent, mais c'était pas les mêmes positions. Mais d'avoir ce joueur-là qui dribble tous les joueurs, tous les adversaires et qui avait marqué le but, c'était incroyable à l'époque. Il faisait des gestes qu'on n'avait jamais vus, hein.
Ouais, non, c'est vrai. Et je pense que c'est peut-être dans la culture brésilienne du football, Tu parlais de football de quartier, mais c'est vrai alors j'allais dire, on reprochait, et je vais parler 2 secondes du Paris Saint-Germain, mais on a reproché à Neymar de jouer comme un gars de quartier, alors qu'on est dans un milieu de football professionnel, et le football s'est tellement professionnalisé que le football quartier, comme on l'a tous imaginé avec le football de champagne ou le total football qu'on pouvait imaginer par le passé, bah, c'est un petit peu, ou c'est dénaturé, ou ça a un peu évolué. Et tu peux plus jouer à faire des gris-gris à gauche, à droite, comme on le faisait et ça faisait rêver. Alors oui, ça va, tu vas peut-être faire un ou deux dans un match, mais tu peux plus vivre que là-dessus.
Non, non, ça c'est sûr. C'est sûr, ça, c'est une histoire d'époque en fait. Hein. Quand on regarde à l'époque, le style de par exemple de Pelé à l'époque quand il jouait, et maintenant ça a rien à voir. C'est beaucoup de stratégie, il y a beaucoup de vices. Maintenant il y a les arbitres qui peuvent arrêter le match et revoir sur la caméra. Tout a changé. Donc
Ouais, ça a évolué.
en fait, chacun son époque. C'est pas.
Ça a évolué. On va revenir foot dans quelques minutes, mais on va parler un petit peu arts martiaux, puis un petit peu boxe. Donc, tu arrives à Toronto, c'est drôle, j'arrive pas à me remettre de l'idée que tu es finalement dans la finance ou dans la banque, et finalement tu c'est toujours, faut jamais juger un livre à sa couverture ou juger à l'apparence, et au final le banquier que tu pouvais avoir en face de toi le week-end, il pouvait aller te faire un grand écart et aussi te mettre un petit coup de pied sur la tempe. Parce que c'est ce qu'il fait dans sa vie de hobby. Mais pour reparler de ça, donc t'arrives à Toronto, tu rentres un petit peu dans ces esprits, coaching et combat. Et je voudrais parler de peut-être de, et c'est peut-être que moi d'ailleurs qui pense que ça, mais les combattants ou les boxeurs, des fois, tu sais, il y a des gens qui vont dire, ouais, ils sont pas super intelligents, ils pensent qu'à frapper, puncher, machin, etc. En réalité, il y a quand même énormément de stratégie, il y a beaucoup d'entraînement, il y a beaucoup de travail sur ce qui pourrait se passer en arrière, plus que sur les un, le premier, deuxième, troisième round, peu importe. Mais il y a beaucoup, énormément de travail physique sur soi et beaucoup de travail stratégique sur comment aborder le combat de ton futur adversaire ou de comment aborder les combats d'une façon générale. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience de tout ça?
Oui, alors bah, déjà un, je suis pas d'accord de toutes les personnes qui jugent les sportifs, les athlètes de haut niveau, que ce soit dans les sports de combat ou même dans n'importe quel sport, pour dire
Raison.
que enfin, je veux dire c'est des sports vraiment très difficiles. Il y a le dépassement de soi, il faut avoir confiance aussi en soi, faut être intelligent, faut réfléchir et ça va vite. Mais tous ceux qui Quand on regarde les athlètes de haut niveau, ils sont tous très intelligents et ils développent en eux une capacité physique hors norme.
C'est évident. Moi, je suis dans ton équipe, hein. Je suis convaincu, et je vais le dire tout de suite. Aujourd'hui, les gens qui pensent comme ça, je pense qu'ils se rendent pas compte des efforts et aussi des sacrifices que l'athlète, peu importe qu'il soit à haut niveau ou pas haut niveau, mais les sacrifices qu'il a décidé de faire, et de prendre des gants ou chausser des crampons, c'est aussi aller chercher à l'intérieur de soi un certain nombre de valeurs qui existent, que ce soit dans le travail collectif ou dans le travail individuel. Et aussi arriver sur un terrain ou un ring en se disant je veux gagner, je veux gagner, j'ai fait les efforts pour gagner, j'ai fait les efforts pour y arriver là où je suis aujourd'hui. Je vais peut-être gagner, je vais peut-être perdre, mais au moins je vais apprendre quelque chose. Et dans les deux cas, c'est moi contre moi-même en réalité. Avant tout, avant d'aller affronter soit une équipe, soit un adversaire. Donc ça, là-dessus, je suis Team Fred, je suis entièrement d'accord avec toi.
Non, mais
Mais de l'autre côté, vas-y, vas-y, excuse-moi, j'allais te couper.
non, 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 je t'en prie.
J'allais juste te dire, t'as fait ce choix donc d'être partir d'une carrière de presque de footballeur à améliorer ton jeu ou ta boxe ou ton comment on pourrait dire ton assise sportive sur du développement personnel. Donc t'es passé de finalement d'athlète à coach. Comment on fait cette transition d'athlète à coach, d'ailleurs, ça ne veut pas dire qu'un coach n'est pas un athlète, mais comment on passe cette transition de je suis moi-même un athlète, à quelque chose où je vais enseigner quelque chose à quelqu'un d'autre?
Ouais, en fait, c'est déjà pour revenir sur les combats. Moi, j'ai toujours eu ce ressenti quand je rentre, avant de combattre, juste avant, j'ai toujours su que pourquoi je voulais combattre, parce que je voulais mettre KO toutes mes peurs et mes craintes. Et comme tu dis, c'est complètement vrai pour moi le fait que peu importe l'adversaire que j'ai en face de moi, c'est pas ça qui compte. J'essaye de me prouver des choses. J'essaye d'aller. On est là, c'est le point d'interrogation. On sait que ça va se battre, ça va être dur, mais en même temps, ce qu'on essaye de mettre KO, c'est un peu la peur, parce que on a toujours du stress et de la peur. Et en fait, c'est oui, c'est un vrai dépassement de soi-même en fait. Et on apprend à mieux se connaître en fait.
J'étais inspiré par ce que tu viens de dire en fait. Je regarde un petit peu ce que tu disais et on disait je cherchais à mettre mes peurs KO. Et à combien d'athlètes qui sont comme toi aujourd'hui et c'est des choses qui ne sont pas nécessairement dites parce que on va voir finalement que la finalité, t'as gagné, t'as perdu, mais on cherche pas à comprendre finalement le voyage que
Ouais.
tu dans lequel tu es. En fait, finalement, le processus dans lequel tu es, dans lequel tu es, ça tout dépend du moment où est dans la journée, dans le moment où tu es dans ta carrière également, à se dire, je suis dans moi dans un processus où je veux gagner, je veux mettre mes peurs KO, certes,
Ouais.
et pour y arriver, ça prend des étapes. Et
Exactement.
peu importe où t'en es dans ta vie, chaque étape va être importante pour arriver à cette finalité. Donc j'étais simplement en train de me réfléchir avec moi et en train de réfléchir avec nos auditeurs à me dire waouh, c'est hyper inspirant ce que tu viens de dire en réalité.
Ouais,
Donc bravo
merci.
pour ça.
Merci. Et je me rappelle, mon coach, il me disait toujours, parce que quand j'ai commencé les combats, j'ai commencé avec en gagnant les tournois, Silver Gold, Golden Glove, j'ai continué, donc du coup, je roulais sur mes 7 premiers combats, j'ai gagné. Et il me disait toujours, oui, t'as mal combattu, reviens lundi, on va bosser, c'est pas comme ça. À chaque fois, il était dit dur avec moi. Il m'a dit, tu vas voir, le jour où tu vas perdre, je te le souhaite pas, mais c'est là où tu vas le plus apprendre. Et il avait raison. Parce que du coup, à force de gagner, j'ai même eu de l'excès de confiance où
Évidemment.
l'adversaire contre qui j'avais perdu, il n'était pas spécialement plus fort que moi, mais je l'avais déjà jugé, entre guillemets. Et
Ouais.
quand j'ai été très surpris quand j'ai perdu ce combat-là, c'est là où j'ai beaucoup plus appris dans la défaite que dans les victoires, en fait. Et c'est ça qui est fort, en fait, dans les sports de haut niveau, en fait.
Je pense que tu as raison. C'est-à-dire que perdre, en fait, j'aime pas le mot perdre, personnellement. Alors, j'aime pas le mot perdre parce que moi aussi, je suis sportif. Et tous les auditeurs qui nous écoutent, c'est l'habitude, c'est j'ai gagné ou ils ont perdu ou on a gagné, ils ont perdu. Quand tu
Dans tous les
regardes
cas, on
un
gagne.
match de foot, donc ouais,
Ouais.
exactement. Dans tous les cas, tu gagnes.
D'accord.
En fait, tu perds pas, c'est une opportunité pour apprendre. Donc, tu as gagné quelque chose. C'est quelque chose qui n'a pas été, tu peux rebondir et tu peux améliorer ou aller t'améliorer ou tu as
C'est
trouvé quelqu'un qui
l'apprentissage.
était exactement. C'est un processus.
Ouais.
C'est un processus. Est-ce que quand tu es passé justement toi du côté coach, t'as
Oui.
eu tes souvenirs à se dire, OK, j'ai des choses à partager, j'ai des choses à transmettre,
Ouais.
peu importe les générations, mais je voudrais faire partie de leur voyage à eux en réalité.
Bon, en fait, moi, ça s'est fait très naturellement parce que à la base, moi, j'ai postulé pour gérer les finances dans une salle de boxe ici à Toronto. Et en fait, moi, ce qui m'avait intéressé, c'est une salle de boxe, en fait. Et vu que moi, j'ai toujours fait des arts martiaux, donc si ce sera une occasion de travailler aussi, de m'entraîner. Et ensuite, fur et à mesure, quand j'ai eu des opportunités. J'étais là tous les matins, par exemple, à 7 heures du matin à la classe où je m'entraînais. Et quand j'ai vu qu'au bout d'un mois, les entraînements étaient devenus faciles, on va dire. Du coup, je venais un peu plus tôt avant, je m'entraînais dehors. Après, le coach, il ouvrait la salle et je faisais 1 heure. Donc ensuite, quand le boss, il a vu que un peu ma détermination aussi, mes skills, il m'a proposé de coacher. Il m'a proposé de coacher 1 heure. Après, c'était 2 heures. Après, tu vas gérer les finances le matin, l'après-midi, tu vas coacher. Donc, du coup, j'ai passé mes certifications. Ensuite, ça s'est fait vraiment étape par étape. Il n'y a pas eu de calcul, ça s'est fait très naturellement. Et ensuite, il y a eu ce fameux coach, mon coach, le Cubain, qui avait une équipe de fighters. Donc, du coup, j'ai intégré l'équipe, j'ai combattu en même temps. Et ensuite, ça n'avait plus trop de sens de continuer dans le bureau, en fait. Et en plus, ça me plaisait plus forcément. C'était plus voilà, j'ai fait des études en finance, j'ai ce boulot-là, mais je me sens mieux en coachant et en m'entraînant pour faire des combats, en fait. Donc
T'as
toute la
raccroché la
transition était très naturelle.
calculatrice, c'est ça?
Pardon?
T'as raccroché la calculatrice.
Ouais. J'ai fait d'autres calculs, mais sur des
T'as fait
commandes.
d'autres calculs.
Donc ouais,
Ah,
ça
donc
s'est fait très
c'est ton
naturellement.
voyage à toi en réalité. Ça s'est fait naturellement. En fait, c'est l'appel qui est venu te chercher en disant ouais non, en fait c'est ça que je veux faire. C'est ça?
Exactement, et en
Ouais,
plus
c'est fou.
c'est une passion. C'est pas comme le fait de coacher, si je le vois pas du tout comme un boulot, en fait. C'est une passion, donc c'est toute la différence. que quand je travaillais en banque, c'était vraiment je travaille, voilà, bon, ben, je fais le boulot, je prends mon argent et au revoir. Mais y avait pas ce côté passion. Ça change tout. J'ai pas l'impression que c'est un job pour moi. Même la première fois que j'ai coaché, je croyais que c'était une blague. Je me suis dit, non, mais c'est fou. C'est fou parce que pour moi, c'était inaccessible. Alors peut-être que je suis dans ma bulle, mais le fait de d'être venu au Canada, pourquoi je suis venu au Canada? C'est parce qu'en fait, je me suis dit, j'aurais peut-être plus d'opportunités. Et de toute façon, si ça se passe bien, je reste. Si ça se passe mal, hop, je retourne en France et en banque. Et en fait, j'ai eu que des belles opportunités, en fait. Et
Ça,
sans
c'est une belle
calculer,
histoire.
très
C'est une
naturellement.
super belle histoire. C'est si, oh, comme tu disais, en plus, tu viens de dire sans calculer, c'est énorme pour quelqu'un qui était dans la finance. C'est, on, et je fais, c'était un jeu de mots, c'était une blague, mais en réalité, comment t'approches ta première session d'entraînement? Enfin, je veux dire, on n'est pas coach tout le monde. Certes, tu peux te dire, voilà, je vais t'apprendre quelque chose dans la vie. Tu sais, tu peux te dire, ah, comment tu peux épargner un peu mieux, comment tu peux gérer tes finances un peu mieux. Mais dans la gestion de sportive de la chose, c'est pas tout le monde qui peut s'improviser coach. Il faut avoir cette empathie avec la personne que tu vas avoir en face de toi. Faut être aussi pédagogue, super pédagogue. Faut expliquer avec des mots simples. Faut se mettre au niveau de ton élève ou tes étudiants ou de la personne qui va être en face de toi. C'est comment t'approches cette transition et comment tu approches ta première session d'entraînement?
Ben, ça se passe, c'est comme un peu avec la banque en fait. Les premiers entraînements, on demande c'est quoi les objectifs de la personne et pourquoi elle est là déjà. Vous
OK.
commencez à poser les bonnes questions. Une fois qu'on a compris ce qu'elle recherche, peut-être perdre du poids ou parce que elle est frustrée, elle a besoin de s'exprimer, d'extérioriser. Chacun a différents goals, surtout pour les personnels training, parce que les classes et les personnels training, c'est deux choses complètement différentes.
Ah, exactement, ouais.
Donc, c'est beaucoup plus personnalisé. Chacun vient avec un objectif. Le plus important, c'est que le coach comprenne l'objectif de son client et l'adapte. Donc, c'est plus ça, en fait. C'est pour ça que je le comparais à quand tu es en banque, le client, il vient et il a des objectifs, peut-être à faire un achat immobilier ou... Et ensuite, on adapte et on propose ce qu'on peut faire. Et pour les
Excellent.
classes, en fait, il y avait différentes classes. Moi, ce que je faisais, j'aimais bien les classes de conditioning parce
OK.
que j'aime bien m'entraîner dans mes classes, en fait. Je supportais pas le fait de coacher, de regarder les élèves se tuer à l'entraînement et être là à les regarder, en fait. Donc moi, ce que je
Alors,
faisais, c'est que je faisais l'entraînement en même temps que les classes. Donc j'avais tout le temps de faire des démonstrations. C'est une chose de parler, mais de l'exprimer, de le démontrer, je trouve que c'est plus profond quand même.
ça, c'est ce que tu appelles le conditioning. Pour quelqu'un qui est novice comme moi, quand tu dis, voilà, tiens, j'ai fait une classe de conditioning, c'est en gros le coach qui est dans une classe collective, nous montre et démontre et le fait avec nous en même temps. C'est ça?
Ouais, c'est ça, mais c'est aussi pour la technique aussi. Donc je mélangeais un peu les deux pour pas que ce soit trop commun.
D'accord.
Donc j'aime bien aussi faire des games parce que le problème, c'est qu'on a beaucoup de stéréotypes par rapport à la boxe, et aussi il y a des salles de boxe où il y a beaucoup d'ego, en fait. Il y a beaucoup de celui qui a les épaules les plus larges, celui qui il y a beaucoup de Mathieu. Alors que ça, moi, c'est pas du tout mon approche, en fait. C'est pas du tout mon style. Du
Donc tu peux
coup,
arriver avec un gars comme moi qui a zéro muscle et qui a un physique de coureur de marathon, non, je rigole, et avec mes objectifs à moi de me dire, je voudrais, je sais pas, améliorer mon cardio ou je voudrais améliorer ma résistance ou tu sais, bâtir un peu plus mes abdos pour renforcer ma colonne vertébrale. C'est là-dessus que tu travailles avec les gens qui vont venir dans ta salle.
ouais, c'est comme ça que je travaille pour les personnels training et après pour les classes, je fais un mix des deux. C'est exactement ça, en fait. Ouais. Et ce que j'essaye de faire en plus, mais je sais, s'il n'y a pas de calcul en plus, c'est juste, j'aime bien quand il y a une bonne vibe, une bonne énergie, ça rigole, c'est chill, mais en même temps, on se tue à l'entraînement. Donc ça, c'est pour ça que quand je parle de stéréotypes, parfois, il y a des salles en France ou comme ici au Canada, où c'est un peu des bourrins, quoi. Plus des bourrins qu'autre chose. Et ça, c'est tout ce que je déteste en plus. J'aime pas du tout tous ces stéréotypes-là. Et souvent, moi, je
Alors,
trouve que ça montre une faiblesse en plus. Et ça veut rien dire du tout.
c'est drôle ce que tu dis parce que tu sais, le stéréotype de je m'aime beaucoup, je me regarde dans la glace, je fais mes gestes, je sais pas, je me regarde. Le nombril, très souvent, c'est vrai qu'il y a ce stéréotype qui existe beaucoup. Et c'est pas que dans une salle de boxe ou d'entraînement, je dirais que tu vas dans n'importe quel gym et pas que au Canada. Hein, je cherche pas à être que local, mais il y a ce stéréotype qui est dit, regarde, regarde, je pousse 50 kilos, je regarde mes muscles si ça a évolué du jour au lendemain.
Ouais.
C'est pas que ça, il y a du travail derrière, il y a beaucoup,
ah
beaucoup,
non non non
beaucoup
il
de
y a pas
travail.
énormément de travail, ça demande un bon jeu de jambes, des beaux réflexes, et ça n'a rien à voir avec la masse musculaire en fait. C'est pour ça que c'est
Exactement.
pas la boxe, c'est vraiment comme un jeu d'échecs, et c'est la vérité. Souvent les gens ils disent si on doit comparer la boxe à un jeu de société, ouais, ce serait les jeux d'échecs le plus. Faut avoir des stratégies en fait. Et faut savoir aussi s'adapter à son partenaire, et ensuite, c'est ça en fait, faut faire beaucoup de calculs. C'est bien réel.
Et dans ton, là, on va essayer de faire une pause parce que je suis sûr qu'on a donné envie à quelques-uns de nos auditeurs de se dire, ouais, moi aussi, je veux faire ça, ou il vient de toucher quelques-unes de mes valeurs en disant, je veux mettre mes peurs KO, etc. Est-ce que t'as ta salle, ou est-ce qu'on peut te trouver, comment on te contacte, Fred?
Alors moi j'ai ma salle en fait où on peut me contacter sur Instagram. Ça s'appelle le Lifestyle Coaching Plus, LSC Plus. Et donc du coup moi je suis situé à côté d'Ossington Station, exactement à Ossington et à Lam. Voilà, j'ai ma salle, je fais des classes et des personnel training, tout en gardant la bonne ambiance, en rigolant et en travaillant dur. Donc
Voilà.
voilà, moi j'ai ouvert ce business-là il y a 2 ans. Avant, j'ai travaillé pour plusieurs salles, mais après Covid, il était temps que je prenne cette responsabilité-là. Je pense que j'avais beaucoup d'idées, et parfois on voit dans des salles ce qui marche et ce qui marche pas, et donc du coup, il était temps pour moi d'ouvrir ma salle avec mon style et avec du caractère, et que ça soit même sur l'organisation de la salle et même au niveau des cours. Donc je suis passé sur ce step-là, et là je suis en plein développement de mon business, quoi.
Eh ben, développement de ton business, regarde, si vous avez touché, ou si vous avez été touché par l'histoire de Fred et son voyage pour en devenir un coach, et maintenant arriver jusqu'à Fred, et en étant propriétaire de sa salle, n'hésitez pas à le contacter, ou contacter Choc FM, on fera les mises en relation. Mais c'était important aussi d'expliquer un petit peu son parcours à lui. On va revenir un petit peu sur tu sais, tu parlais de ton modèle qui était Ronaldo à l'époque. Est-ce que tu as un modèle dans la boxe ou dans les arts martiaux aujourd'hui qui t'inspire?
Moi, le modèle que j'ai eu très très jeune, c'était Bruce Lee, parce que mon
OK.
père était fan et parce qu'on a regardé toutes ces cassettes à l'époque. J'aimais beaucoup aussi le côté philosophe, le côté les arts martiaux, que ce soit le kung-fu, on a commencé avec le karaté, ensuite le kung-fu et etc. Mais en fait, j'aime beaucoup la philosophie chinoise, le respect, toutes ces valeurs-là en fait. Je pense que c'est pour ça que mes parents nous ont mis dedans, pour aussi que ce soit de l'éducation en fait.
OK.
C'est toutes ces valeurs-là, c'est pour ça que j'aime les parents qui inscrivent leurs enfants au taekwondo, au karaté, au kung-fu, parce que ça c'est des valeurs en fait. C'est
Bien
pas
sûr.
c'est des valeurs de respect, de dépassement de soi, etc. Je trouve que c'est bien pour essayer de se développer en fait, surtout avec des enfants.
Donc le petit Fred, et je dis pas ça de façon péjorative, mais le petit Fred quand il était gamin, c'était des posters de Ronaldo et des posters de Bruce Lee dans sa chambre. C'est à peu près ça que tu me dis,
Exactement,
hein.
exactement. C'est ça.
Est-ce que aujourd'hui t'as des dans ton domaine, parce que on va être honnête, mais le UFC ou le MMA est à le vent en poupe. En tout cas, les gens s'intéressent un peu plus à ce sport-là. On a eu la chance d'ailleurs d'avoir du UFC dans la ville de Toronto, ce que je savais qu'il n'y a pas très longtemps. On a eu les UFC 299 et UFC 300 très récemment, ou qui pouvaient être les main events, comme ils les appellent, pouvaient être tous, enfin tous les combats pouvaient être des main events, notamment sur le 300. Est-ce que tu regardes ça? Est-ce que tu es quand même encore passionné par ton sport au final? Et est-ce que tu as, ça fait beaucoup de questions, mais est-ce que tu as aussi un athlète que tu vas suivre plus par rapport à son processus, lui aussi, de développement, ou alors simplement ses qualités sportives?
Moi, franchement, celui que vraiment que j'ai beaucoup aimé, c'est en tant que combattant, et aussi c'est par rapport à son histoire, c'était Ngannou, hein. Francis Ngannou,
Ok,
elle est
Francis
incroyable son
Ngannou.
histoire. Elle est incroyable son histoire, quand
Alors, pour ceux qui la connaissent pas, vas-y, partage-nous un petit peu l'histoire de Francis Ngannou.
le fait qu'il vienne d'Afrique, qu'il était déjà déterminé, il voulait faire de la boxe anglaise, En fait, finalement, il arrive en France et il rencontre des coachs de MMA. Ensuite, il performe en MMA. Ensuite, il part aux États-Unis. Il plie tout le monde. Et derrière, il a boxé un des meilleurs boxeurs actuels, c'est Tyson Fury. C'est incroyable, c'est une histoire de détermination, de dépassement de soi. Et c'est pour ça que quand je pense à cette histoire-là, je sais oui, il faut vraiment être fort. Psychologiquement, mentalement, ça, c'est un parcours de fou.
Ouais,
Ça
je suis
m'inspire.
assez d'accord. Je suis assez d'accord avec toi. Et tu vois, Francis Ngannou, quand on dit qu'il vient d'Afrique, il vient du Cameroun. Il est arrivé en France. Il est arrivé en France presque, et pas de façon illégale ou rien du tout. C'est pas le sujet, mais il est presque arrivé avec rien, avec simplement son physique et son envie d'y arriver. Et ces deux choses-là, ton physique et son envie d'y arriver, combinés, ont fait en sorte qu'il est devenu Francis Ngannou, le Francis Ngannou qu'on connaît aujourd'hui, et qui a pu réussir à performer. Alors certes, on se souvient de la ceinture, on se souvient des combats qu'il a pu faire, et on se souvient également de passer de la MMA à la boxe, qui est pas forcément d'ailleurs naturel. C'est pas forcément simple d'être en
Ah, c'est
MMA
pas le
en
même
street fight.
sport, hein.
C'est pas du tout le même
Pas le
sport.
même.
Tu vas peut-être nous expliquer ça dans quelques minutes, mais pour finir sur le combat contre Tyson Fury. Pour ceux qui l'ont pas vu, moi je fais partie des gens qui l'ont regardé. Francis Ngannou a perdu ce combat, mais il aurait dû le gagner. Donc il y a une espèce de il s'est fait voler, selon moi, parce qu'il a quand même couché Fury dans le match, enfin dans le combat. Mais la finalité, c'est que ce match-là a été perdu, ou ce combat a été perdu par Francis Ngannou. Il y aura peut-être une revanche. Apparemment, c'est des choses qui sont en discussion. Mais belle image de prendre Francis Ngannou comme un exemple et comme une belle histoire. Et pour tous les auditeurs qui ne connaissaient pas Francis Ngannou, j'espère que vous allez pouvoir googler et regarder un petit peu sur YouTube qui est Francis Ngannou et regarder un petit peu son histoire, parce que c'est un bon gars, comme on dit.
Ouais, pour moi, c'est la définition de la détermination. Franchement, d'avoir quitté de continent à chaque fois, mais je me dis, c'est incroyable, quoi. Afrique, Europe et dernière Amérique du Nord, ouf, c'est incroyable. Et il a fait que monter, hein. Bon, même
Ouais,
si on voit
alors.
pas qu'il travaille, le problème des sports de combat, c'est qu'on voit pas, on voit juste la finalité, le combat et le résultat. Mais le truc, c'est on est des fighters, comment dire, de l'ombre. C'est exactement ça, c'est qu'on juge les gens sur leur performance, mais on voit pas tous les entraînements et la discipline que ça demande, en fait. Et c'est ça, en fait, c'est ça, c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour Ngannou, quoi. Trois continents à lui, et là, il a tout fait. Il a
Ouais,
tout
c'est ça.
fait.
C'est tout fait. Et alors, on parlait d'être en MMA. Donc MMA, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est l'octogone, hein. C'est on rentre dans une cage et on va combattre. Et on passe à la boxe. Et tu le disais tout à l'heure, c'est pas du tout le même sport. Donc comment on passe de la MMA à la boxe et combattre contre Tyson Fury?
Bon, moi, en fait, j'ai fait le contraire. Moi, en fait, déjà, comme je dis, j'ai fait du karaté, donc j'avais des bases en pied-poing. Mais ensuite, quand je me suis vraiment intéressé à la boxe, j'en ai vraiment fait, j'avais déjà des capacités parce que j'avais déjà fait du pied-poing. Ça m'avait beaucoup aidé pour mon footwork, mon jeu de jambes, en fait. Parce que les gens, ils pensent souvent que oui, c'est que des gauches et des droites, mais il y a un jeu de jambes à connecter avec les bras. Donc du coup, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup aidé. Mais c'est juste, c'est complètement, c'est oui, c'est la bagarre entre guillemets, mais c'est juste un autre sport. C'est pas du tout les mêmes mouvements, c'est pas du tout la même distance, les déplacements. Là, on est sur un ring, eux, ils sont dans une cage. C'est pas du tout le même. Ouais. Donc, pour moi, c'est différents sports. Et d'aller au sol, en plus d'aller au sol, ça demande d'autres capacités. C'est pas la même condition aussi, la même condition physique. Chaque
Ouais, copain.
sport a une condition assez différente. Eux, c'est un round de 5 minutes. Nous, en boxe, c'est 3 minutes. Tenir 5 minutes, faire un round de 5 minutes, je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Moi, j'ai déjà fait un petit peu d'MMA en France, à l'époque, quand ça se développait. On faisait du kick, il y avait un prof de jiu-jitsu. Et à la fin, on se roulait, on faisait des combats de 5 minutes, on était cuit parce que c'est pas du tout la même cardio, c'est pas du tout la même stratégie, les mêmes techniques. Donc non, 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 chaque sport est complètement différent, en fait.
Ouais, tu parlais d'aller au sol, mais donc ça c'est plutôt dans la MMA. où effectivement il y a du combat, mais il y a aussi un peu du travail au sol où on fait des pour essayer d'être le plus simple possible, des clés de bras, des prises pour le maintenir, pour le tenir au sol. Dès qu'il peut plus bouger, l'arbitre surveille un petit peu tout ce qui se passe et il peut décider d'arrêter le combat en fonction de là où on en est arrivé. Ce qui n'est pas le cas du tout en boxe, puisque finalement c'est points et c'est tout. Et il n'y a pas d'utilisation genou, pied, à part du cardio, et de déplacement sur un ring, c'est pas du tout la même chose. Je fais celui qui s'y connaît un petit peu, c'est juste le passionné qui parle, mais le spécialiste dans la salle, c'est toi. J'essaie juste de faire passer un petit peu tout ça à nos auditeurs pour leur faire comprendre que il y a une mouvance en ce moment où on parle beaucoup du UFC, ou du MMA ou de la PFL en France. Avec des stars qui ont été en MMA et qui passent maintenant en PFL. Et puis il y a la boxe d'une façon générale. Donc c'est des sports qui sont complètement différents. Et à côté de ça, tu as aussi le taekwondo, le kung fu, le karaté. C'est des sports de combat, mais qui inspirent à être une personne différente en fonction de ce que chacun veut faire dans la vie, en absorbant les valeurs de ce sport ou de ces sports à l'intérieur de soi pour essayer d'aller chercher à se dépasser. Je n'essaie pas d'être inspirant comme toi tu l'es aujourd'hui, j'essaie de simplement de rendre cette conversation la plus abordable pour nos auditeurs. Est-ce que tu regardes un petit peu les combats là avec Cédric Doumbé ou récemment avec la PFL ou les MMA qui sont en cours? T'es quand
Alors
même encore un passionné?
oui, Doumbé, je le connais depuis longtemps, j'étais fan de lui, mais c'est à l'époque, moi, je l'ai pas découvert là, en fait, à l'époque, quand j'étais en France et que je faisais du kick, du sanda, moi je le regardais. En plus, il s'est déjà entraîné, lui, il s'entraînait à Angoulême, mais je sais que de temps en temps il venait à Limoges s'entraîner. Et là où il s'entraînait, en fait, je connais le coach avec qui il s'entraînait, parce que c'est un fighter. En fait, avant d'être au Glory, il faisait du foot contact. En fait, il y a différentes disciplines. Il y a le foot contact, il y a le kickboxing, il y a le sanda. C'est toujours du pied-point. Il y a la boxe thaï aussi, mais c'est quasiment les mêmes sports. Il y a quelques différences. Et Cédric Doumbé, je l'ai vu monter, en fait. Je l'ai vu monter fur et à mesure. Et d'ailleurs, pour améliorer son pied-point, il a commencé à faire de l'anglaise, lui aussi. Il a commencé à faire de l'anglaise pour améliorer sa patate, sa technique. Et non, je l'ai vu monter, incroyable. Incroyable, hein, car lui aussi, il a un parcours incroyable. Il est parti en Hollande, il s'est entraîné avec les meilleurs. Parce qu'à l'époque, au Glory, il y avait que des Hollandais, en fait. En fait, les Hollandais, ils ont un gros background en kickboxing et c'était les meilleurs fighters. Donc lui, il est parti là-bas directement, y vivre et s'y entraîner. Et après, il a commencé à gagner le champion en titre qu'il n'avait pas perdu, je crois, pendant 5-6 ans. Il a battu. Donc tout son parcours, je l'ai bien suivi. Et même là, c'est encore incroyable lui aussi qui a changé, qui est maintenant en MMA, quoi. C'est pas du tout le même sport. Donc
Non,
il a
ça n'a rien
toujours
à voir.
parlé, il a toujours fait ses vidéos, c'est pas un truc qui est nouveau. Moi je le suis depuis longtemps. Très fan, hein,
Mais
très fan.
pour les gens qui connaissent pas Cédric Doumbé, bon, déjà premièrement c'est un athlète incroyable. Fred vient d'en parler et il a aussi le côté un petit peu exubérant de temps en temps pour certaines personnes à vouloir beaucoup parler. Quand on dit beaucoup parler, on parle de ce qu'on va appeler le trash talk juste avant d'un match où on va parler mal sur l'adversaire ou exprès sur l'adversaire. Pardon, on va essayer aussi de lui, je sais pas, envoyer des matelas, ou envoyer un petit peu des photos ou des vidéos, etc., etc. Il est vraiment dans toute cette scénographie et attitude avant un match. Le côté attitude, c'est aussi ce qui caractérise Cédric Doumbé. À côté de ça, c'était un professionnel important, un combattant important, et j'ai envie de te dire, il peut livrer la marchandise. C'est pas il a pas qu'une grande bouche, il est aussi un gros athlète à côté et il peut performer. La seule chose, il faut qu'on en parle de l'épine dans le pied. Faut qu'on en parle de cette épine. Est-ce que tu penses que l'arbitre aurait dû arrêter ce match-là ou est-ce que tu penses que Doumbé il s'est dit ouais, c'est bon, je vais pas y arriver contre Baki?
Non, je pense que honnêtement, déjà Baki, incroyable hein, ce qu'il a fait pour
Carrément.
son âge, c'est un bon petit jeune et j'aime bien sa mentalité, le fait qu'il parle pas, le fait qu'il soit humble. Chacun son style, même si j'aime beaucoup Doumbé, mais c'est vrai que j'aime beaucoup l'état d'esprit de Baki. Ensuite, par rapport au combat, il s'est beaucoup engagé Doumbé en faisant du trash talking, mais sauf que le premier round, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Ensuite, il a le deuxième round, il a changé son style, arrêté d'envoyer des kicks, il a travaillé en anglaise, là où il a commencé à vraiment toucher sévèrement à plusieurs reprises, même si ça restait serré, mais premier round pour Baki, deuxième round pour Doumbé, et le troisième, on a eu le temps de rien voir. C'est, pour moi, c'est, comment dire, c'était assez particulier. Je pense que il y a eu des règles. Il y a eu des règles qui ont été dites avant le combat. Et je pense qu'il a voulu, voilà, comme on a vu sur la vidéo, il a voulu se plaindre pour dire voilà, j'ai un truc. Peut-être il avait peut-être peur de retirer les pneus du pied et de prendre un coup, parce que c'est quand même on est dans une cage.
Ouais, c'est clair.
Et donc du coup, ça, en plus, il a beaucoup parlé. Donc s'il y avait un peu d'incompréhension, j'ai trouvé, c'était, ça nous a tous frustrés. Mais à revoir. Je sais pas, pour moi, j'étais comme tout le monde, dégoûté, quoi. Surpris, dégoûté, ça allait vite. En même temps, c'est de sa faute aussi, parce que voilà, il y avait des règles, et j'ai vu une vidéo où, en fait, les arbitres, ils parlent avant au combat. Ils ont droit de pas se plaindre et qu'ils pourraient rien faire et qu'il était très bien au courant, en fait. Donc c'est ça, ouais, qui m'a surpris. Mais le fait que l'arbitre prenne pas le temps de discuter, c'est bizarre, c'était étrange. Il aurait pu, ça prenait 2 minutes de discuter juste avec lui, de comprendre. Il a même pas cherché. Ouais. Donc
pour les auditeurs, je m'excuse de te couper, Fred, mais pour les auditeurs qui connaissent pas et qui ont pas vu ce match-là ou ce combat, faut que j'arrête de parler de match. L'idée c'est que en fait, donc il y a deux combattants, Cédric Doumbé et puis Baki, qui est un des événements principaux de la soirée. C'est dans la cage, c'est le combat qui est hyper attendu. Il y a eu beaucoup de trash talking avant de Cédric Doumbé en disant Baki t'es mort ou un truc comme ça. Et puis du coup tout le public qui lui vient se nourrir, Doumbé vient se nourrir un petit peu de l'énergie du public et de tout le monde qui va être là-bas. Son précédent combat, il avait duré 9 secondes. Ouais. contre son adversaire précédent. Donc il arrive finalement avec une espèce d'auréole autour de la tête. Et puis il y a ce match contre Baki. Baki, c'est Baki Doumbé, deux Français qui s'opposent, deux styles comme tu le disais qui s'opposent aussi. Un qui parle beaucoup, un qui dit rien, qui est très calme, un qui a une trentaine d'années, un qui a une vingtaine d'années. Donc c'est, ouais, c'est vraiment deux personnes complètement différentes sur leur style et sur l'approche du combat. Et l'histoire de l'écharde dans le pied, pour que les gens comprennent, les gens qui nous écoutent comprennent. Donc on arrive au début du troisième round, il y a quelque chose qui se passe, et on voit, parce que les spectateurs qu'on était tous, il y a quelque chose qui se passe, et on voit Doumbé qui parle avec un petit peu avec l'arbitre, qui parle même avec Baki, et qui dit attends, il y a un truc qui se passe, j'ai une galère, il faut qu'on arrive à faire quelque chose. L'arbitre dit non, vous continuez à engager, vous continuez à combattre. Doumbé dit OK, on voit qu'il y a pas d'action, il y a rien. On voit que l'arbitre lui dit si vous combattez pas, ben vous risquez de perdre le combat. Et Doumbé redit encore une autre fois à l'arbitre non, je peux pas combattre, j'ai un truc qui se passe, il faut qu'on fasse une pause pour que je regarde ce qui se passe à mon pied. Et là l'arbitre prend la décision d'arrêter le combat et de dire que Baki a gagné ce combat-là. Et évidemment tout le clan Doumbé et puis tous les fans de Doumbé comprennent pas ce qui se passe, lui non plus comprend pas ce qui se passe. Et d'ailleurs, si on regarde bien ce qui s'est passé, il a pas voulu enlever l'écharpe de son pied pour que tous les journalistes ou tous les caméramans qui étaient présents à ce combat zoom sur son pied ou sur son gros orteil pour qu'on voit qu'il y avait une écharde ou une épine ou quelque chose qu'il avait chopé quelque part dans la cage ou sur l'octogone. Donc c'était simplement pour donner un petit peu de contexte aux personnes qui n'auraient pas vu le combat et donner un petit peu de tout ça. Donc en réalité, le petit Fred qui avait Ronaldo et puis Bruce Lee à son mur quand il était petit, maintenant qu'il est coach, t'es quand même en train de regarder quand même à évoluer ce sport de MMA, puis de regarder un petit peu la dimension que prend la MMA, tout en regardant un petit peu la boxe. Qu'est-ce que tu penses du frère Paul et Tyson et qui arrive à faire un combat dans pas longtemps? Est-ce que Tyson qui reprend les gants pour aller combattre contre Paul, c'est quelque chose qui te fait vibrer ou tu trouves que c'est vraiment ça rend pas service à la boxe?
Non, je suis contre, hein. Franchement, honnêtement, je suis dégoûté. Je crois que j'ai même pas regardé le combat. C'est juste que c'est pas les mêmes générations. Ils essayent de faire du buzz. Chacun essaye de prendre ses billets, ce qui est normal. Mais voilà, je le déteste, le petit blanc là. Je le déteste. Je supporte pas. Ouais. Et voilà, moi qui suis aussi fan de Mike Tyson, c'est une légende. Là, il va, je sais pas. Je pense que il était au prime, il a arrêté. fallait que ça, faut que ça s'arrête là. Au moins, s'il fait un combat, qu'il combatte contre une star de son âge, c'est mieux, comme Holyfield ou je sais pas, n'importe quel autre boxeur, mais pas un gars des réseaux sociaux.
Pas un youtubeur, quoi.
Ouais, non, je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, c'est Tyson, ouais. C'est la légende. Une légende avec quelqu'un qui joue de la flûte, non, c'est pas grave.
On connaît tous Tyson parce que voilà, Tyson, et le youtubeur, donc Paul, en l'occurrence, pour ceux qui ne connaissent pas, donc assez grand, il s'est mis à la boxe il y a quelques années, il a une belle affiche, il a une belle fiche, faut pas se mentir. Il est arrivé, pour ceux qui se souviennent pas, mais il est arrivé avec une carte Pokémon autour du cou, en collier. La carte valait presque $1 million. Enfin, on est vraiment dans un autre dimension. On est plus vraiment dans la boxe, on est vraiment dans le côté, on
Business,
dirait,
quoi.
business, social media et ainsi de
Ouais,
suite.
c'est ça.
Comment faire du buzz. Maintenant, il a la possibilité d'aller, enfin, il a la possibilité. Il va combattre Tyson. Alors, il y a deux possibilités. Soit Tyson, il est trop vieux. Et d'ailleurs, si vous regardez un petit peu les vidéos qui tournent de Tyson qui s'entraîne, il s'entraîne, le gars. C'est pas, il prend pas ça à la légère.
Ouais.
Et Tyson à 50 piges, j'aimerais quand même pas être en face de lui sur un ring parce que je pense qu'il va vouloir aller prouver que même à 50 ans, il est capable d'aller démonter un YouTuber.
Ouais.
De l'autre côté, le YouTuber, donc Paul, et je m'excuse de le dénigrer ou de le ramener ça simplement à YouTuber, il est boxeur, on va lui donner le respect qu'il mérite, mais aller affronter Tyson, avec quoi, 20, 30 ans de plus. Si jamais il est amené à gagner, on dira bah de toute façon il était plus jeune, normal, c'est logique. Si jamais il était amené à perdre, on va tout de suite dire bah de toute façon c'était Tyson en face, il avait aucune chance. Donc
Ouais.
dans les deux cas, bon, tu joues Tyson ou tu joues pas Tyson, c'est là, en fait ça ne sert que à Paul pour sa carrière et à ses followers pour sa carrière à lui. Donc ça c'est aussi mon avis, donc on partage le même avis sur ce
Ouais,
combat-là.
c'est du business, quoi. C'est du business, c'est pour avoir, voilà, chacun prend son billet. Je comprends, hein, je comprends. Après, c'est s'ils peuvent gagner de l'argent facilement, c'est bien. Après, moi, je trouve pas ça. Je vais pas regarder le combat, quoi. Voilà, quoi.
Ouais, pas bah je sais pas encore moi si je vais regarder ou pas le regarder, mais le fait
J'aurai
est c'est
sûrement
que
le highlight, mais
ouais,
ouais.
voilà, on regardera les résumés.
Ouais.
Si on reparle de foot un petit peu, j'ai un petit oiseau qui s'appelle Fred qui m'a dit que tu étais aussi supporter d'une équipe de football, et je parle bien d'une équipe, pas d'une équipe nationale. Tu regardes un peu les matchs, tu suis cette équipe, et quelle est cette équipe?
Bah Paris, j'aime beaucoup, et le Real Madrid, hein. Il y a deux clubs, franchement, mais c'est surtout pour les joueurs, en fait. Moi, je suis pas un fidèle d'équipe. J'ai jamais été trop supporter, en fait, depuis que je suis petit. Comme j'ai dit, moi, j'ai commencé le foot, j'ai vu Ronaldo, et pour moi, c'était dingue ce qu'il faisait. J'étais supporter d'un joueur, quoi, en fait. Et comme à l'époque aussi, Nicolas Anelka, j'aimais tellement pas vraiment pas. Hein. J'aimais bien, comment dire, il avait beaucoup de talent, en fait. Il avait trop de talent à l'époque avec Thierry Henry, tout ça. Paris, ils ont une belle équipe. J'espère qu'ils vont faire quelque chose. Là, ça fait plaisir qu'ils soient en demi-finale. Pour moi, ils peuvent les taper là. Le Dortmund, ils peuvent. Ouais. On a toutes les capacités pour les taper, franchement. Après, Paris, ils sont capables du meilleur comme du pire. Hein. C'est ça le truc en fait avec Paris.
Ça, c'est les supporters connaissent, hein, si
Et
t'es
ça, c'est le
supporter du
côté. Et ça, c'est le
PSG.
côté. Et ça, c'est le côté mental. Ça, c'est le côté mental. C'est pas le côté talent où ils savent pas jouer entre eux, c'est le côté mental. Et c'est pour ça que quand on revient sur les sports, on dit que les athlètes, faut qu'ils aient un mental. En plus, c'est jouer en équipe. C'est-à-dire que ça dépend pas d'un joueur, c'est vraiment la cohésion d'équipe. Donc,
Est-ce que tu penses que le Paris Saint-Germain de cette année, je parle bien de cette année, est différent du Paris Saint-Germain de l'année dernière ou même de l'année d'avant encore, puisque tu parles du mental, est-ce que tu trouves, si tu suis un petit peu ce que fait le Paris Saint-Germain cette année, est-ce que tu trouves pas que le coach actuel, donc Luis Enrique, a apporté cette couche un petit peu mentalité, projet, et voir d'ailleurs maintenant cette équipe en demi-finale de Ligue des Champions, est-ce que c'est pas le résultat du travail mental ou du coach mental, puisqu'ils ont aussi pris un psychologue, hein, dans le staff technique du Paris Saint-Germain. Est-ce que tu penses pas que c'est le résultat de ce travail?
ici, bien sûr, il y a beaucoup de respect à avoir par rapport à lui. S'il est arrivé, il s'est beaucoup fait critiquer, d'ailleurs, comme tous les autres entraîneurs qui sont passés. On dirait que chaque année, un entraîneur, il saute, et il y a des nouveaux joueurs, et des joueurs qui rentrent, qui partent. Mais non, il est arrivé avec avec un style de jeu, il a changé 44 fois la composition de l'équipe, le
c'est
style,
vrai,
et c'est bien. Et c'est franchement, c'est beaucoup fait critiquer, mais là, tout le monde a retourné sa veste, maintenant tout le monde dit « ouais, il est super bon ». Mais non, moi, je l'ai trouvé super efficace. Et honnêtement, d'arriver avec ton style en ayant fait beaucoup de changements, même les supporters parfois comprenaient pas, il a eu des beaux résultats. Il y a que des finales, hein, ou des demi-finales, on va dire. C'est
on croise
incroyable.
les doigts pour les finales. D'abord, il y a quelques demi-finales à aller chercher, mais on croise les doigts. Donc tu disais PSG puis Madrid. Donc en fait, le meilleur des deux mondes pour toi, ce serait une finale PSG Madrid, si j'en suis un petit peu ce que tu disais.
Exactement, exactement. Moi, j'aimerais trop. Moi, pour moi, c'est la finale à voir. En plus, j'adore les deux styles d'équipe. En plus, il y a une belle histoire autour de Mbappé qui va signer sûrement au Real. Il a été super critiqué dernièrement Mbappé pour Paris. Alors qu'il met des buts, enfin c'est incroyable. Même quand Mbappé l'a parlé de comme quoi il allait pas rester à Paris, toutes les critiques qu'il a eues, voilà quoi. Ça serait une très belle finale en tout cas. Real, c'est un classico, hein. Ils ont gagné quasiment toutes les ligues des champions, donc.
Ouais, ils ont une salle des trophées qui est brutale. C'est pour ceux qui l'ont pas visité. En fait. Petit secret, je suis un peu comme toi. J'ai mon équipe, c'est le Paris Saint-Germain depuis que je suis tout petit. Moi, j'étais là avant les pétrodollars, donc je peux dire que quand Amara Diané nous évite la relégation à un match contre Sochaux, on est très content, moi en tout cas. Mais à côté de ça, j'ai vécu aussi à Madrid dans le passé, donc le Real a une place importante. Ma fille est encore en Espagne et elle habite à Madrid, donc c'est le Real a une place très très importante pour moi. Et la finale de rêve, c'est Kylian qui passe son entretien d'embauche en finale de Ligue des Champions à se dire, vas-y, bah, regarde, je viens de te mettre un pas content triplé, et on gagne la Ligue des Champions et tu pars à Madrid et t'as déjà tous tes fans qui t'adorent parce que t'es capable de tout. T'es capable de faire oublier un Cristiano Ronaldo, t'es capable de faire oublier un Karim Benzema. Avant d'arriver à ce niveau-là, il va falloir qu'il prouve qu'il peut arriver là, mais tous les feux sont au vert pour que Kylian devienne la pépite. Que la pépite mondiale avant d'être la pépite du PSG que l'avenir lui réserve.
Faut juste une confirmation et encore hein, lui il a une étoile hein, il a quelque chose de spécial dans ce joueur là. C'est incroyable hein. Même de gagner la Coupe du monde avec la France, d'avoir fait tout ce qu'il a fait là, si en plus il a annoncé son départ de Paris, si en plus il joue en finale contre le Real, en plus il les fait gagner, ce serait incroyable.
C'est une belle histoire.
Magique.
Paris est magique. Alors ce serait parfait. Ce serait parfait.
C'est ça.
Fred, on arrive à l'heure de notre discussion. C'est incroyable comment le temps il est passé vite. Mais pour les quelques dernières minutes qui nous restent, reparle-nous un petit peu de ta salle. Où est-ce qu'on te trouve? Instagram, etc. Fais un petit coup de pub à ton business.
Déjà, dans un premier temps, je voulais juste te remercier pour cette interview. C'était super sympa et agréable.
Avec plaisir, avec plaisir.
Et tout le monde est le bienvenu dans ma salle qui s'appelle LSC Plus, Lifestyle Coaching Plus. Vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux et ça va bien se passer. On va envoyer des double jabs in your face, mais avec la bonne vibes. Hein. J'ai toujours j'ai mis ça sur un de mes murs, double jab in your face, parce que je m'en rappelle quand je faisais des combats avec mon coach, je parlais pas, quasiment pas anglais, et à chaque fois quand on faisait des sparring, ça se charriait pas mal, et on était toujours là, tu l'as vu le double jab in your face. Et donc du coup c'est resté et j'en ai fait même j'ai mis mon logo avec ce double jab in your face, c'est le petit clin d'œil pour la petite ambiance, quoi.
C'est la petite histoire. Ok, allez, n'hésitez pas à aller donner de la force à Fred. Nouvelle salle du côté d'Austinton. Et puis nouvelle salle, un gars qui parle français aussi dans la ville de Toronto. Si vous voulez un coach qui vous permette de vous aussi de partir de votre voyage avec aller combattre vos peurs ou mettre vos peurs KO, comme il l'a dit plus tôt dans l'émission que j'ai adoré d'ailleurs au passage. C'est important et envoyez-lui de la force, suivez-le, allez lui parler, allez faire des tests, voyez si vous aimez un petit peu la vibe du double jab in your face. C'est important. Fred, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour l'émission, c'était vraiment stylé. J'ai adoré parler avec toi. Le UFC, le MMA, le sport de combat, le Ronaldo, le Bruce Lee, T'as réveillé plein de choses chez moi. Donc, merci beaucoup d'être passé. On se reparle très, très vite. Et pourquoi pas, Choc FM, aller faire un petit tour du côté de la salle de Fred très, très vite pour vous montrer un petit peu ce que ça veut dire d'être dans un entraînement. On vous tient au courant, Fred. Merci beaucoup. Et on se parle très, très
Merci.
vite sur les ondes de Choc FM.
Merci. Rendez-vous à la salle, hein.